tous, bienvenue. Nous revenons dans la ville de naissance du peintre Gustave Courbet dans le Doubs pour la naissance de son bicentenaire. Nous rencontrons les responsables d'une association qui aide les sans-abri à avoir plus chaud l'hiver à Lille. Elle s'appelle Sans Maille, Ça Caille. Et puis on fait le point sur une vente exceptionnelle de météorites dans le Loir-et-Cher. Une heure en France, ce sont vos initiatives, notre patrimoine et vos coups de génie aussi. Mais avant tout cela, place à l'actu de ce lundi 25 février. Bonjour Denis Farou.
Bonjour Frédéric Le Tournier. Bonjour à tous.
Le feu est stabilisé en Corse, mais des rafales de vent sont encore annoncées dans la journée.
Jusqu'à 80-90 km/h, ce qui pourrait raviver le feu. Près de 1500 hectares ont brûlé sur l'île ce week-end.
Il fait beau, mais surtout il fait chaud partout en France.
Trop chaud pour la saison. En tout cas, on se doutait bien que des records allaient tomber. Eh bien, c'est fait, Nathalie Delpera.
Absolument, on est bien au-dessus des températures de saison et les records tombent de Brest à Montpellier. Et
les propos forts du pape contre les abus sexuels dans l'église ont marqué les esprits.
Mais des associations de victimes ne sont pas convaincues sur les suites qui seront données.
Demain, nous serons au Salon de l'Agriculture avec un éleveur de porcs et aussi Mister France, un jeune espoir de l'agriculture.
On prépare le Salon de l'Agriculture ce midi dans les allées, porte de Versailles à Paris et dans le centre Val-de-Loire avec un éleveur qui se convertit au bio.
Bienvenue à tous, bonne semaine, toujours sur le soleil pour l'instant.
Une heure en France, Frédéric Le Tournier, Denis Farou sur France Bleu.
La majorité des feux sont maîtrisés en Corse, mais tous ne sont pas encore éteints.
La préfète de Corse estime qu'il y aura besoin encore de moyens aériens pendant plusieurs jours. 1500 hectares sont partis en fumée en 24 heures avec une cinquantaine de départs de feu. Le colonel Bruno Maestrecci, directeur du service incendie et secours de Corse du Sud, ne comprend pas pourquoi on débroussaille encore par le feu dans ces conditions.
Pourquoi faut-il, alors qu'on sait qu'il va y avoir du vent, pourquoi faut-il, alors qu'on sait que la situation est non pas inquiétante, mais préoccupante au niveau de la sécheresse, pourquoi faut-il vouloir faire des écobuages à tout prix, alors qu'il y a d'autres moyens, justement, d'incinération des végétaux, mais dans les choses contrôlées? Et pourquoi, surtout, une fois que c'est fait, alors qu'il y a le vent qui arrive, pourquoi on les maîtrise pas mieux, on les contrôle pas, on va pas les surveiller? Ça me semble là une responsabilité de chacun, et de surtout ceux qui ont pratiqué ces écobuages, peut-être par manque de conscience, simplement. Ce que je ne comprends pas, c'est qu'avec toute cette expérience qu'on a dans notre île, avec tout ce savoir-faire, qu'on continue encore à penser qu'on est plus fort que les autres et que nous, on sait. Alors qu'on voit des gens qui souffrent encore en plein mois de février, qui ont eu peur de tout perdre, qui ont tout perdu. On n'a pas le droit de laisser faire ça.
Le colonel Maestrecci, des sinistres liés à des conditions climatiques favorables à la propagation des flammes en Corse.
Les conditions météo sont particulières sur toute la France, vous l'avez remarqué. Et comme on s'en doutait, plusieurs records de chaleur ont été battus au mois de février à Béziers, Montpellier, La Rochelle ou Noirmoutier.
Toutes les régions sont concernées par les températures et les excédents de soleil à pareille époque, Nathalie Delpera.
Oui, les records tombent depuis vendredi. Hier, par exemple, la Bretagne a vécu une douceur historique avec 19,7 degrés. Brest bat un record qui datait de 1960. Landivisiau a affiché 20 degrés. Sur la côte atlantique, le mercure a grimpé à 20,5 degrés à La Rochelle, vous en parliez. Quasiment 3 degrés de plus qu'un jour déjà historique, il y a pile 10 ans. En Vendée, Noirmoutier a flirté avec les 20 degrés.
Et dans le sud?
Eh bien, plusieurs records. Vendredi, dans l'Hérault, ça a grimpé à 24,7 degrés à Béziers, Montpellier a affiché 23,6 degrés, des températures records aussi dans le Gard, à Viclefesque ou à Aigues-Mortes. Globalement, partout hier en France, les températures étaient de 6 à 10 degrés supérieures aux moyennes de saison.
Chaleur mais soleil également.
Oui, ce mois de février est bien plus ensoleillé que d'habitude. Des frontières belges à l'Alsace et au nord de la Franche-Comté, entre le sud de la Bourgogne et le nord de la région Auvergne-Rhône-Alpes, ou encore entre les côtes nord de la Bretagne et le Cotentin. Environ une fois et demie plus d'heures de soleil que d'habitude sur ces régions. Par exemple, il y a eu 110 heures de soleil à Strasbourg et Nevers, ou encore une centaine d'heures à Saint-Brieuc et Paris. Paris où on avait lancé, souvenez-vous, un avis de recherche en janvier pour l'astre solaire désespérément absent.
C'est vrai. Merci pour ce coup de chaud, Nathalie Delpera.
Il va faire beau et doux, au moins jusqu'à mercredi, en pleine comme en altitude. On a relevé plus de 15 degrés sur certaines pistes de ski. Alors, y a-t-il un rapport entre cette météo très douce cette année et le réchauffement climatique?
On a bien retenu la leçon qu'il ne fallait pas confondre climat et météo, mais on constate que les hivers sont désormais plus chauds et il va falloir s'y habituer, explique Jean Jouzel, le vice-président du groupe scientifique du GIEC, le groupe pour l'étude du changement climatique.
Les hivers vont devenir de plus en plus doux en moyenne en France avec ce réchauffement. C'est 1,5 degré plus doux en France que les hivers, disons, il y a une cinquantaine d'années, dans les années 50-60. On n'a pas comme cet hiver de 1963 où pratiquement pendant les 3 mois d'hiver, on était à des températures autour de 0 degré. On n'a jamais eu ça à nouveau. Il y a eu des hivers un peu rudes, disons, 2009, L'an dernier, il y a eu quelques pics de froid, mais ce n'était pas un hiver en moyenne très froid non plus. Donc, en moyenne, les hivers se réchauffent, deviennent de plus en plus doux, avec des conséquences aussi bien sur la saison d'enneigement qui a tendance à diminuer. Le réchauffement, c'est un réchauffement de toutes les saisons, avec quand même, en France, un réchauffement peut-être plus marqué pendant l'été.
Jean Jouzel, le climatologue et glaciologue français qui suit de près l'un des plus grands glaciers de l'Antarctique qui menace de se détacher.
Oui, c'est aujourd'hui que nous décidons du sort de l'Antarctique pour les prochains siècles avec les émissions des gaz à effet de serre, dit Jean Jouzel.
Les abus sexuels sur les mineurs ne doivent plus jamais être dissimulés. Le pape François a promis hier une lutte à tous les niveaux contre les abus sexuels sur mineurs après 4 jours d'un sommet inédit au Vatican.
On attend maintenant la suite qui sera donnée à ces propos, mais l'initiative est généralement saluée. Nous sommes avec vous devant l'église Saint-Christophe à Belfort, Manon Klein.
Oui, pour de nombreux fidèles comme Jean, ce sommet sur les abus sexuels signe la fin de l'omerta.
Il faut toujours pouvoir se remettre en question, il faut toujours briser un peu ces silences, ces omertas, qu'il y ait une tolérance zéro sur tous ces problèmes, puis dire voilà, c'est plus possible. Et je pense que c'est un message pour les autres institutions. Et le problème de pédophilie, il n'y en a pas que dans l'église, malheureusement, il y en a partout.
Claire estime que l'initiative du pape a au moins eu le mérite de libérer la parole.
Je pense que c'est aussi permettre aux victimes de faire un petit bout de chemin de guérison. La première étape, c'est déjà cette parole. Dans toutes nos blessures humaines, la parole, c'est déjà le point de départ de pouvoir se reconstruire.
Certains fidèles comme Yves sont plus sceptiques, voire critiques.
C'est un peu comme notre grand débat en France. Hein. S'il y en sort quelque chose, c'est bien. Mais si c'est pour parler, pour ne pas avancer, il faut qu'il fasse des réformes, il faut qu'il avance un peu. Hein.
Vous n'avez pas l'air de trop y croire.
Bon non, ils ont fait tellement de bulles qui ont éclaté en vol qu'il n'est pas sorti grand-chose, quoi.
Selon Yves, il y a un premier pas à franchir pour prévenir les abus sexuels au sein de l'Église.
Est-ce qu'on va accorder le mariage aux prêtres ? C'est une solution.
Le mariage pour les prêtres, pour le moment, ça n'est pas à l'ordre du jour. L'évêque du diocèse de Belfort-Montbéliard prévoit, lui, de son côté, d'organiser un séminaire sur les abus sexuels ces prochains mois, en présence de prêtres, mais aussi de victimes.
Manon Klein à Belfort, le sommet contre les abus sexuels au sein de l'Église est à retrouver sur francebleu.fr.
Le revenu universel revient par la petite porte. La mesure était portée par Benoît Hamon pendant la campagne présidentielle. Des départements veulent le tester et une commune va le mettre en place.
Le maire écologiste de Grande-Synthe dans le Nord va faire voter un minimum social garanti qui devrait concerner 1500 personnes dans cette ville des Hauts-de-France de 23 000 habitants, Mathieu Darrier.
Le dispositif a déjà existé dans les années 80 à Grande-Synthe. Aujourd'hui, Damien Carême le relance en partant du constat que plus de 17% de sa population vit en dessous de 850 euros par mois, qui est considéré comme le minimum vital. Cela va coûter plus de 2 millions d'euros par an, mais c'est finançable, assure l'élu.
L'argent provient des économies qu'on a fait, notamment des économies d'énergie, et donc c'est en fait la transition sociale et écologique. Et on peut montrer que, par exemple, sur l'éclairage public cette année, c'est 476 000 euros. L'année prochaine, avec le réseau de chauffage urbain, c'est 250 000 euros. Là, ça fait 700 000 euros d'économie. On a déjà l'argent pour abonder le CCAS aujourd'hui, pour son intervention sociale. Donc il nous reste quelques centaines de milliers d'euros à mettre pour compenser ce que va coûter le minimum social garanti sur la ville. Et puis c'est aussi une forme de redistribution des richesses, puisque c'est des richesses de la taxe professionnelle que touche la ville, qui seront distribuées vers les personnes les plus en difficulté. Et ça concerne tous ceux qui sont en dessous de ce seuil de pauvreté, c'est-à-dire les gens qui sont déjà au minima sociaux aujourd'hui, mais aussi les travailleurs pauvres. Quelqu'un qui travaille avec un SMIC, quand il y a 4 personnes avec les aides sociales, il n'est pas au-dessus du seuil de pauvreté, donc ça permettra aussi de l'amener au-dessus du seuil de pauvreté.
En fonction des situations de chacun, ce minimum social pourra représenter de 100 à 400 euros de complément de revenus par mois. 1500 personnes seraient concernées.
Mathieu Darrier et le minimum social garanti annoncé à Grande-Synthe dans le Nord.
La situation est tendue en Algérie à un peu moins de 2 mois d'élections présidentielles.
Depuis vendredi, de nombreux rassemblements ont eu lieu à travers le pays et des dizaines de milliers de personnes ont dit non à un 5e mandat de Bouteflika, très affaibli et qui est visiblement à Genève en ce moment pour des raisons médicales.
13h09 sur France Bleu, la suite du Nord en France, c'est à Hollywood avec les films récompensés hier soir, quelques jours après les Césars français. Mais ce sera après les veaux, vaches et cochons. Après le marathon d'Emmanuel Macron, c'est le Premier ministre Édouard Philippe qui est sur place aujourd'hui. 700 000 visiteurs sont attendus au Salon de l'Agriculture où nous serons demain à 7h06.
Nous serons, Frédéric, dans le hall 1 au milieu des animaux. Tous les halls Porte de Versailles ont du succès, mais ce sont quand même les vaches qui ont le plus la cote, qui attirent le plus le public. Et vous l'avez vérifier, Adrien Brossard.
Devant le stand des races bovines bleues du Nord, tout le monde veut absolument son selfie avec imminence, l'égérie du salon.
Comme ça, j'envoie à mon collègue.
Les animaux plébiscités en priorité par les enfants.
Moi, j'adore les animaux.
Moussa, 8 ans, est un habitué du salon.
On y va tous les ans, en fait.
Et j'aime les moutons comme on peut les toucher à chaque fois.
Il a d'ailleurs une idée bien précise de son futur métier.
Agriculteur. Comme ça, je pourrais toucher tous les animaux.
Pour certains, c'est carrément une première. Alex est obnubilé par...
les vaches !
Une découverte pour cet habitant de Gonesse dans le Val d'Oise, sa maman Micheline.
Ils n'ont pas l'habitude de voir l'animal lui-même en réalité, mais là, ils voient plus que tout.
J'ai vu aussi des poussins.
Le salon, c'est aussi l'occasion de découvrir de nouvelles races, parfois étonnantes.
J'ai jamais vu ça.
Valérie n'en finit plus de rire devant le popotin des blancs-bleus du Grand Est.
Comment dire ? Mais en fait, on dirait des vaches brésiliennes. Avec des fesses augmentées. Elles se sont fait opérer au Brésil, ces vaches. C'est pas possible.
Et oui, c'est aussi ça, la richesse de l'élevage français. Même les éleveurs, comme Gérard, venu de Franche-Comté en visiteur, s'en étonnent encore.
C'est sûr que bon, on a l'habitude de côtoyer du bétail. Enfin, là, c'est autre chose, quoi, parce que c'est une vision d'ensemble des races qui sont représentées. C'est phénoménal.
Il y a cette année au salon 4000 animaux pour 360 races différentes.
Adrien Bossard au Salon de l'agriculture.
Et dans Une Heure en France cette semaine, on parlera aussi d'agriculture bio. À l'heure où elle progresse régulièrement, 6200 exploitations sont passées au bio l'année dernière. C'est un niveau historique.
Prenons un département, l'Indre-et-Loire. 311 exploitations et 11 000 hectares désormais en bio. Vous êtes allé à Pérusson, Théo Hetch, un village de 1500 habitants chez un éleveur de vaches laitières et producteur de céréales.
Grégoire Joubert a décidé de sauter le pas il y a un an. Il est donc en conversion, pas encore certifié bio. Il faudra 2 ans pour obtenir le label, le temps que les dernières traces de pesticides disparaissent.
C'est le démarrage des prairies au printemps, quoi. On avait l'habitude de leur mettre un peu d'engrais azoté pour démarrer plus vite. Là, on va voir ce qui va se passer.
Obligé de changer ses habitudes, par exemple, il a dû réaménager sa grange pour accueillir ses 14 génies. Désormais, il est obligé de les élever en bio.
Les veaux, à l'âge de 15 jours, partaient chez un éleveur à Charnisay ou Orbigny et je les récupérais à 2 ans, juste avant leur mise bas, quoi.
Et comme il n'a pas trouvé d'éleveur capable de les élever en bio, il s'en occupe. De même, il a dû changer ses pratiques et investir dans du nouveau matériel.
On a acheté une bineuse et une nercetterie pour désherber les maïs et les céréales. Pour remplacer un peu les herbicides.
Un investissement de 15 000 euros financé à 30% par la région, mais ça vaut le coup, estime Grégoire Joubert.
La société veut du bio partout, la coopérative de Verneuil à côté nous incite aussi à en produire parce qu'en ce moment ça se vend bien. Puis ben, un petit challenge avant le départ à la retraite d'avoir converti l'exploitation au bio.
À 57 ans, il pense aussi avoir plus de chances de trouver un successeur si l'exploitation est en bio.
Théo Hetch est l'éleveur producteur qui se convertit au bio en Indre-et-Loire. Je voulais vous prévenir de quelque chose, Frédéric.
Dites-moi.
Si vous croisez deux moutons qui broutent un talus de la SNCF près d'une ligne près de la ligne Saint-Lazare-La Défense,
dans c'est normal, je m'inquiète pas.
17e à Paris, ne vous inquiétez pas, elles ne se sont pas échappées du salon, c'est une opération d'éco-pâturage.
Ouh, on aura peut-être l'occasion d'en reparler dans Une Heure en France. Les Oscars d'Hollywood ont récompensé Green Book, l'histoire vraie d'une pianiste noire en tournée dans le sud ségrégationniste des États-Unis, et aussi Bohemian Rhapsody, le film qui raconte Queen et Freddie Mercury.
Your big disgrace, kicking your can all over the place, singing, we will rock you.
Bohemian Rhapsody a été très apprécié en France.
Ah ça oui, 4 millions d'entrées au cinéma.
La suite d'Une Heure en France, c'est en Franche-Comté.
Chez le peintre Gustave Courbet, dans le Doubs.
À Lille aussi, avec Sanmaï Sakai.
Une aide aux sans-abri.
Et puis dans le ciel et sur la terre.
Avec un chasseur de météorites qui vend sa collection. Ce sera après la météo et la grippe qui est toujours là.